Maintenant, nous retrouvons Serge Tizi. Aujourd'hui, il va nous parler des conséquences de la guerre 14. Toute une série, il y en a quatre émissions sur la guerre 14, parce que vous verrez qu'à cette époque, première grande guerre de l'ère capitaliste, on essaye de décrypter et de comprendre exactement comment étaient traités les gens sur le front lorsque c'est la guerre, et bien des fois on manque de matériel déjà en 14. Si ça vous rappelle quelque chose, en tout cas moi ça me rappelle bien quelque chose qu'on a vécu il n'y a pas si longtemps que ça. Allez, je vous propose de retrouver Serge Tizi, professeur d'histoire et géographie au lycée Esclangon, pour son dernier cours sur la guerre 14 à destination des secondes et des premières.
Bonjour chers auditeurs, auditrices de Fréquence Mistral Manosque, bonjour chers lycéens confinés. Nous nous sommes quittés la dernière fois quand j'ai parlé de la vie à l'arrière du front par un chant pacifiste allemand, Wo alle Straßen enden, qui était en fait la réponse allemande au chant de Craon chanté par les soldats français. Ce qui me permet désormais d'aborder le dernier cours radiophonique sur la guerre 14-18, qui est en fait un cours sur les conséquences de cette première guerre mondiale. Alors, elles sont multiples, hein, elles sont à la fois humaines, elles sont territoriales, elles sont immédiates, et on peut encore aujourd'hui voir ces conséquences humaines quand on voyage dans le nord de la France, dans les Vosges, par la multitude de cimetières militaires, qu'ils soient des forces de l'Entente ou des forces allemandes, par les nécropoles qui parsèment le territoire de la Belgique jusqu'à la frontière suisse. Donc nous avons ici donc une conséquence humaine importante, inédite dans l'histoire de l'humanité. Pensez seulement, et je reviens dessus, 74 millions de soldats ont été mobilisés entre 1914 et 1918. 49 millions du côté de l'Entente, c'est-à-dire du côté des Français et de leurs alliés, 25 millions du côté des empires centraux, c'est-à-dire de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie et de l'Empire ottoman et de la Bulgarie. 10 millions de morts. Soit 6000 morts par jour, 11% de pertes pour la Russie, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, 18% pour la France, 40% de pertes pour la Serbie. Ça fait, en pourcentage, on ne se rend pas véritablement compte, mais en nombre c'est encore plus édifiant, 1,5 million de Français sont morts, ils avaient entre 17 et 40 ans. 2 millions de Russes et d'Allemands sont morts, 1 million de Britanniques, 1,5 million aussi d'Austro-Hongrois. Des familles entières sont décimées d'hommes. Il n'y a plus ni mari ni fils. Des villages entiers perdent leurs hommes. C'est le cas notamment ici dans les Alpes d'Haute-Provence de plusieurs petits hameaux, comme celui par exemple de Montfuron. Les lignes de front, donc comme je le disais en introduction, se couvrent de cimetières militaires. Les villes et les villages, que ce soit d'ailleurs du côté allemand ou du côté des alliés, se couvrent de monuments aux morts. On en a à Man, on en a à Brest, on en a en Australie, on en a à Johannesburg en Afrique du Sud, on en a à Alger, on en a à Nouméa, à Pondichéry en Inde, à Saigon en Indochine, à New Delhi, aux États-Unis, partout il y a des monuments aux morts. Les Anglais initient la tombe du soldat inconnu à l'abbaye de Westminster le 11 novembre 1920 et les Français font de même sous l'Arc de Triomphe. Donc l'Europe se drape de noir, nous avons 3 millions de veuves, 6 millions d'orphelins qui deviennent des pupilles de la nation. Nous assistons ainsi à la naissance, j'ai bien dit à la naissance, d'un État-providence pour soutenir les familles endeuillées. Il faut effectivement aider ces enfants à s'élever, aider les familles à subvenir à leurs besoins alors que l'homme ou les hommes sont morts. Donc, on va avoir les premières pensions de veuves de guerre, les premières pensions pour les pupilles de la nation, c'est-à-dire les enfants. 20% des soldats tués dans ce conflit entre 19 et 27 ans. Ces jeunes hommes n'ont donc pas été pères, et cela explique les classes creuses de 1939-1940, c'est-à-dire ces hommes n'ont pas fait d'enfants, et 20 ans plus tard, ces enfants ne sont pas nés, donc on a des classes creuses. Et donc donc des déficits de naissance. À ces morts ou disparus, parce qu'il y a beaucoup de corps qui ne sont pas retrouvés, et nous avons, durant les années 1918, 1920, 1921, 22, 23, quasiment une forme de tourisme, avec des guillemets, de familles qui veulent chercher des corps, des restes de corps, et qui cherchent donc à enterrer leurs hommes dans un esprit familial. À ces morts et disparus, il faut ajouter les blessés. 3,4 millions de blessés pour les Français, 2 millions de Britanniques, 4 millions d'Allemands, 3,5 millions d'Autrichiens. Ce sont des amputés, ce sont des gazés, ce sont des gueules cassées, des polytraumatisés, des choqués psychologiques. Il faut là aussi soigner ces blessés, il faut les rééduquer, les soutenir financièrement, selon les états et leurs capacités. Parmi ces blessés, 500 000 vont mourir après-guerre, suite à leurs blessures. D'autres vont être encore emportés par la grippe espagnole qui sévit à travers le monde entre 1918 et 1920. Le retour à la vie civile est difficile, tant pour ces soldats blessés que pour leurs familles. Et cela sera parfois le cas 50 ans encore après le conflit. Certains d'entre nous ont eu des grands-pères qui ont vécu cette guerre et qui étaient traumatisés la nuit, rêvaient la nuit de ce qu'ils avaient vécu et n'ont jamais pu exprimer ce qu'ils avaient vu. Cette situation a obligé les États, bien sûr, à subvenir aux besoins de ces soldats par des pensions de guerre qui préfigurent eux aussi, eh bien, la création d'une sécurité sociale seulement à partir de 1945. Donc les conséquences sont aussi politiques et elles sont nombreuses. Les femmes obtiennent le droit de vote en Russie, en Allemagne, en Autriche, au Royaume-Uni. En France, le débat s'installe aussi sur un droit de vote pour les femmes, pour les remercier et les gratifier de ce qu'elles ont fait pendant 4 ans, c'est-à-dire tenir le front à l'arrière. L'Assemblée nationale qui vient juste d'être élu en 1920 est favorable à ce vote. Seulement, ce droit est bloqué par le Sénat qui rejette toute proposition du vote des femmes. Cependant, attention, ce droit qui est accordé, ce droit politique est accordé aux femmes et parallèlement, on assiste aussi à une série de limitations des droits sociaux et sociétaux pour les femmes. En effet, le retour des hommes du front signifie aussi, par la même occasion, l'expulsion des femmes des usines et des emplois qu'elles occupaient pendant 4 ans. L'avortement ou la contraception est désormais strictement interdit par la législation sous peine de mort. Il faut faire des enfants et le rôle de la femme est donc redevenu un rôle de faire des enfants. Ça ne veut pas dire que les femmes ne travaillent pas, je le rappelle, les femmes ont toujours travaillé, seulement les emplois qu'elles occupaient entre 1914 et 1918 du fait du départ des hommes au front, eh bien ces emplois-là vont être redonnés prioritairement aux soldats. La France, qui était déjà un pays d'immigration, a renforcé cette politique d'immigration pour pallier les morts et les blessés de guerre. Alors on a par exemple des Albanais qui vont par exemple repeupler le village des Alpes d'Haute-Provence de Montfuron. On a des Portugais, des Espagnols, des Grecs, des Arméniens qui viennent à Marseille. On a des Polonais qui viennent dans le Nord avec des Italiens. On a des Kabyles qui viennent d'Algérie et qui vont travailler de plus en plus dans les usines du côté de Marseille, mais aussi en région parisienne et ouvrir des petits commerces et des petits restaurants. Il faut aussi désarmer le front. On se rend pas tellement compte ici en Provence, mais pour ceux qui ont vécu dans le Nord, le front, c'est des tranchées qui existent encore. Vous pouvez encore vous balader dans les tranchées et dans certaines zones qui sont encore jugées dangereuses. Donc ce front-là, il y a des multiples obus qui ont toujours pas explosé. Il y a des cadavres, il y a des tranchées, il y a des herses, il y a des barbelés. Et tout ça doit être déblayé. Alors on se sert des Chinois que nous ont envoyés la Chine pour soutenir la politique de défense de la patrie et en même temps on va utiliser des immigrés pour nettoyer donc ce front à l'aide aussi des personnes qui vont encore faire leur service militaire. Donc il faut aussi reconstruire les villes et les villages qui ont été rasés, Reims, Abbeville, Noyon, Laon, toutes ces villes-là, Compiègne, il faut bien sûr les refaire. Le droit de vote, puisque je parlais de droit de vote des femmes, eh bien ce droit de vote, n'oublions pas, il se répand. Il n'y avait que très peu de pays qui avaient un suffrage universel. La France faisait partie des pays qui avaient adopté le suffrage universel en premier. Eh bien, en 1918, les Anglais aussi adoptent le suffrage universel en y incluant immédiatement les femmes. En Italie aussi, on adopte en 1919 le suffrage universel. Mais là, comme en France, on empêche les femmes de voter. Elles ne voteront qu'en 1946. Nous avons aussi des conséquences mondiale, puisque c'est une guerre mondiale, il y a des conséquences mondiales. La guerre a créé des identités nationales nouvelles. Les Canadiens pensent que, comme les Australiens et les Néo-Zélandais, pensent que leur pays, leur nation, le fait d'appartenir à une nation et d'avoir une conscience nationale est né sur les champs de bataille de France et du Moyen-Orient. La guerre a engagé aussi un processus de décolonisation. En effet, en Inde, le parti du Congrès, fondé par notamment Gandhi, a pour projet l'indépendance future des Indes au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, une notion qui vient d'arriver par les États-Unis en 1918 par le discours de Wilson, du président Wilson au Congrès des États-Unis et ses 14 points. La carte de l'Europe et du monde est bouleversée par la guerre 14-18. L'Europe de l'Est et au Sud change par rapport à la création de nouveaux États. Alors on a effectivement la Pologne qui se crée, on a la Tchécoslovaquie, on a la Yougoslavie, on a les États baltes, on a la Roumanie qui est agrandie sur la Hongrie, on a aussi, il faut pas l'oublier, l'Irlande qui se détache, ce qu'on appelle la République d'Irlande, qui se détache de la Grande-Bretagne. Et donc, on a un nouveau pays ici aussi. Au Moyen-Orient, on avait la grande promesse des Anglais et des Français vis-à-vis des Arabes qui s'étaient soulevés contre les Ottomans, c'était « ne vous inquiétez pas, on créera un grand pays arabe pour vous ». Les États, la France et la Grande-Bretagne, notamment leur délégué Sykes et Picot, se sont dit « non, on va pas faire comme ça, on va se partager en fait le Moyen-Orient ». Et donc la France a pris la Syrie et le Liban, et le Royaume-Uni a pris l'Irak, la Jordanie, dont la Palestine. Quant à la Turquie, la Turquie a implosé, elle a été complètement divisée entre la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Grèce, et ainsi que Constantinople, qui a été aussi divisée et occupée par les Alliés, et ce qui a produit en fait un nationalisme turc dirigé notamment par Mustafa Kemal Atatürk. En 1920, le traité de Versailles et ceux qui vont le suivre par la suite, d'ailleurs pour le Proche-Orient notamment ou le Moyen-Orient, eh bien ce traité de Versailles n'est pas véritablement un traité de paix. En effet, bien qu'on discute de la paix, bien que ça s'appelle la conférence de la paix, le but c'est de punir les vaincus. Le grand homme de cette conférence c'est Georges Clemenceau, et Georges Clemenceau lui, il faut continuer la guerre, il faut faire payer les Allemands par rapport à tout ce qu'ils ont fait, et donc les Allemands doivent payer. Ils perdent leur colonie, mais ça c'était déjà acté pendant la guerre. Ils doivent aussi des pénalités financières, ils n'ont pas le droit d'avoir une armée, et en plus, quand sont réorganisés les Jeux Olympiques d'Anvers de 1920, eh bien ni l'Autriche, ni la Hongrie, ni l'Empire Ottoman, ni l'Allemagne ne sont invités à participer au JO. Pourtant, nous avons une Société des Nations qui est créée en même temps que le traité de Versailles, par la conférence de Versailles. C'est une idée qui vient des États-Unis, du président Wilson, et les 14 points, c'est-à-dire les buts de guerre américains, qu'il a exposés devant le Congrès le 8 janvier 1918. Et le 10 janvier 1920, cette Société des Nations, signe le traité de Versailles, ce qui clôt officiellement la guerre. Il n'y a plus de guerre. Mais attention, l'Allemagne n'a pas le droit d'y adhérer. Elle n'y adhérera que 6 ans plus tard, en 1926. Et surtout, celui qui n'adhère pas, ce sont les États-Unis d'Amérique, à cause d'un refus des républicains au Sénat du Congrès des États-Unis. Ces républicains s'opposent notamment à la dureté du traité de Versailles vis-à-vis des Allemands et donc refusent de signer cet acte de Société des Nations. Or, le fait que les États-Unis ne soient pas présents dans cette Société des Nations qui a pour but de garantir la paix, de garantir les frontières, mais aussi on commence à avoir une Organisation internationale du travail, on commence à avoir une Organisation internationale de la santé, on commence à avoir les prémices de ce que vont devenir par la suite les Nations Unies, les États-Unis ne participent pas, donc ne financent pas. Or, les États-Unis sont la grande puissance économique mondiale en 1920. Ils n'ont pas été touchés par la guerre, leur potentiel tant humain que technique ou naturel est intact. La bourse de Wall Street devient la première bourse du monde. L'économie européenne repose essentiellement à partir de 1920 sur les investissements américains, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni. Et cela enlève donc le fait que les États-Unis ne participent pas à la SDN, cela enlève en fait le pouvoir d'instaurer la paix et le respect des traités. L'URSS, de l'autre côté, devient aussi une espérance. Il ne faut pas oublier la révolution russe qui s'est perpétuée, qui a commencé en octobre 1917 pour sa version bolchevique. Eh bien, Lénine prend le pouvoir, le gardera et instaurera en fait l'Union soviétique après presque 5 années de guerre civile dans laquelle les puissances européennes vont participer allègrement, notamment les Français et les Britanniques, avec les Américains pour le côté pacifique. Cette Union soviétique devient une espérance d'égalité pour un certain nombre d'ouvriers, de paysans tout pauvres. De l'autre côté, là, du côté de Moscou, il y a un endroit où il n'y a plus ni pauvres ni riches, il n'y a plus que des ouvriers à égalité de droits, de devoirs, qui régissent un nouveau pays. Cette espérance va produire une fracture dans les partis socialistes qui s'étaient formés avant-guerre. En effet, on a désormais une fracture entre communistes, pro-Union soviétique et socialiste, c'est-à-dire une version réformiste. Alors ça se passe au congrès de Tours entre la SFIO et le nouveau parti communiste français. Ça se transforme aussi en guerre civile en Allemagne entre le SPD, les sociaux-démocrates, et le KPD, c'est-à-dire les communistes. En Finlande, on a des sociaux-démocrates aussi qui se font massacrer, c'est le moins qu'on puisse dire, par des conservateurs. Cette Union soviétique, cette nouvelle espérance, forme en fait une nouvelle vision du monde, une nouvelle possibilité de vision du monde. En même temps que se développe cette espérance, on a aussi une autre espérance, qu'on mettra aussi des guillemets, c'est le nationalisme qui refait surface. Alors pourquoi le nationalisme refait surface juste après guerre? Parce que certains considèrent que la guerre, que la paix est injuste. Alors nous avons effectivement des mouvements nationalistes qui se développent en Allemagne contre ce diktat de Versailles, cette trahison des sociaux-démocrates qui ont trahi l'Allemagne en lui amputant en fait les régions de l'Est, c'est-à-dire la Poméranie actuelle pour fonder la Pologne. Nous avons aussi des nationalistes en Italie. Comment ça, le port de Fiume n'est pas italien, vous l'avez donné aux Yougoslaves, quelle horreur, alors que nous avons tellement combattu pour vous, et puis qu'est-ce que vous nous laissez en Libye, vous nous laissez rien, une petite bande là, c'est pas possible, il y a un orgueil national qui a été tellement chauffé à blanc pendant 4 ans, qu'en 1919-1920, face aux restructurations économiques, face à la crise économique, parce que 1919-1920, il y a une crise économique, il faut réadapter le tissu industriel à une économie de paix, c'est-à-dire passer d'une économie de guerre à une économie de paix, et ça, ça se fait avec des chômages, avec des crises, et en plus, vous avez aussi une crise des soldats qui reviennent du front, et qui veulent aussi avoir leur dû. C'est le cas notamment de révoltes paysannes dans le sud de l'Italie. Comment se fait-ce que ce sont encore les grands propriétaires qui mènent tout et nous on a donné notre sang et on n'a rien. Donc tout ça fait un climat dans lequel une partie des grands propriétaires et une partie du patronat n'est pas contre des chemises noires en Italie qui vont à la chasse de tout ce qui porte un foulard rouge ou rose. C'est aussi un nationalisme par exemple naissant en Chine qui comprend pas comment ce port de Tianjin qui est chinois, qui avait été allemand est tout d'un coup réoccupé par les Japonais qui ont pris possession du port et ils trouvent que c'est injuste. Et ça se trouve aussi au Moyen-Orient où un général Mustafa Kemal trouve aussi lui que le fait que la Turquie soit amputée de tous ses territoires, que les Grecs occupent Smyrne, que les Italiens occupent le sud de la Turquie, que les Français aussi, que tout le monde se serve en fait sur la Turquie, n'est pas normal, et donc c'est lui qui formera la Turquie moderne. Les conséquences sont donc multiples. 20 ans plus tard, la Deuxième Guerre mondiale a mis fin à ces espérances de 1900, des années folles de plus jamais de guerre. Je vous invite à voir plus précisément certains monuments aux morts qui ont été érigés après la guerre de 1914-1918. Dans le cimetière de Manosque, par exemple, vous avez un très beau monument aux morts qui a été fait par les anciens combattants, financé par les anciens combattants, et vous verrez le caractère très pacifiste de ce mouvement et de ce monument. Vous avez effectivement l'idée, en tout cas dans les années 20, de plus jamais ça. En 2020, qu'est-ce qui nous reste de cette guerre ? Bien sûr, il nous reste le 11 novembre, mais il reste surtout des restes de tranchées dans les régions du Nord. Les obus, les cadavres remontent à la surface encore maintenant sous l'effet des grands travaux, comme par exemple quand on a fabriqué le TGV Nord ou les travaux agricoles. Il reste dans les familles des objets, des vieilles photos. Il reste des plaques de rue portant les noms de certaines batailles, de certains généraux et aussi de certains soldats comme à Oraison. Je vous invite toujours à lire énormément de revues, de livres sur la question. Vos livres d'histoire, par exemple, en parlent très bien. Vous pouvez aussi voir un certain nombre de films qui me paraissent assez remarquables, comme Un long dimanche de fiançailles, ou Là-haut, ou encore le dernier film britannique 1917. Et je vous quitte maintenant avec une chanson qui a été chantée par une actrice d'origine allemande mais très internationale qui s'appelle Marlène Dietrich, qui a chanté cette chanson au gala de l'UNICEF de 1962. C'est une chanson américaine qui a été créée par Pete Seegers, un chanteur très pacifiste et très engagé américain, qui s'appelle en allemand Sag mir wo die Blumen sind, en anglais Where all have all the flowers gone, et puis que sont devenues les fleurs en version française. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne continuation, et puis une bonne fin d'année à tous, et puis bonne écoute, et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour un autre thème. Au revoir.
Das Lied, das ich für Sie singen werde, ist ein amerikanisches Lied, für das Max Kolpe den deutschen Text geschrieben hat. Sag mir, wo die Blumen sind. La chanson que je vais vous chanter est une chanson américaine pour laquelle Rousseau a écrit les paroles françaises. Mais comme je vais chanter en allemand, je vais vous dire de quoi la chanson parle. Où sont parties toutes les fleurs? Les jeunes filles sont venues, les ont cueillies. Et où sont allées les jeunes filles? Vers les jeunes hommes. Et où sont allés les jeunes hommes? Ils sont allés à la guerre. Et où sont allés les soldats? Aux tombes. Where have all the flowers gone? Young girls picked them, everyone. And the young girls went to the young men. And where did the young men go? To war. And where did the soldiers go? To the graves. And then the flowers grew on the graves, and the young girls picked them again. When will they ever learn? Quand est-ce qu'on va jamais comprendre? Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräbern weht der Wind.